Vous êtes sur RTL.
A ouvert dimanche une enquête pénale après un reportage de M6 sur de telles agapes interdites, alors qu'un organisateur s'est finalement rétracté après avoir affirmé anonymement que ses ministres y participaient. C'est M. Chalençon qui a fait dire par son avocat que c'était de l'humour. Maxime, qui habite dans le Val d'Oise, vous êtes restaurateur vous-même ?
Tout à fait.
Bon, est-ce que vous avez eu vent, par exemple, qu'il existait des restaurants qui étaient clandestins ?
Oui. Bah, de toute façon, c'est un faux secret, parce que je pense que dans la sphère parisienne, des restaurants renommés ou des restaurants qui se décalent vers des lieux privés existent. Ça a toujours existé. Je pense que depuis les années 20, la prohibition, ça a toujours existé, les speakeasy, les lieux interdits.
Et oui, mais il n'y avait pas besoin d'avoir des restaurants interdits avant.
Avant, il n'y en avait pas besoin.
Oui.
Mais le problème, c'est que je pense que certains ont un rythme de vie qu'ils veulent maintenir et qui ne sont pas habitués à avoir un repas à la maison fait par leur femme ou commandé sur les plateformes.
Mais par exemple, vous êtes dans le Val-d'Oise, autour de chez vous, vous avez eu vent de cela ?
Ah bah moi, donc je suis dans le Val-d'Oise, donc je suis concerné par le confinement et le couvre-feu à 19h. Mmh. J'ai des restaurants qui sont autour du mien qui restent ouverts.
Ah bon ? Mais enfin, les gens prennent des risques. Parce qu'il y a toujours un moment, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un qui est venu, quelqu'un pour faire parler de lui, que sais-je. Le risque est quand même immense que cette information soit divulguée.
Ah ben on est bien d'accord, hein. Un restaurateur il risque 2 ans d'emprisonnement, les 3750 euros d'amende, la mise en danger d'autrui après s'il y a une plainte, c'est 15 000 euros plus 1 an d'emprisonnement, sans compter que...
Il ne recevra plus d'aide.
Voilà, de toute façon on ne les reçoit pas depuis décembre. Mais
vous n'avez plus d'aide depuis décembre ?
Ah ben on attend les versements.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes donc le 5 avril, et le dernier versement que vous avez eu date de quand ?
Du mois de décembre pour le paiement du mois de novembre.
Mais comment ça se fait qu'il y a 3 mois de retard ? C'était prévu ?
Non, c'est pas prévu. Le gros problème, c'est qu'il y a maintenant donc des contrôles, parce qu'il y a eu beaucoup de restaurateurs qui ont abusé. Mmh. Donc les contrôles des impôts sont beaucoup plus drastiques.
Mais c'est vrai pour tous les restaurateurs, parce que moi j'ai l'impression que j'ai jamais un restaurateur qui me dit la même chose, pour tout vous dire. Certains disent je reçois, d'autres je ne reçois pas. Vous, c'était 20% du chiffre d'affaires de l'an passé, nous sommes d'accord ?
C'est ça.
C'est ça la règle.
Mon restaurant date de 2019, donc j'ai à moitié, sur 2020, pour moi c'était une année blanche. Donc,
mais pourquoi c'était une année blanche ? Vous étiez ouvert l'année dernière ?
L'an dernier, 2020, je suis un restaurant de type rapide, donc j'ai eu les problèmes sur place, donc je ne pouvais pas ouvrir au public sur place, je n'avais que l'emporter. Et comme je n'avais à peine un an de développement, ma clientèle était encore en construction.
Bon, en tout cas, on s'est éloigné un peu de... Est-ce que vous étiez choqué ou pas de ces dîners clandestins ? C'est donc des dîners parisiens aussi luxueux que clandestins, malgré la pandémie. Je le rappelle, c'est M6. On voit des chefs qui organisent ces grands dîners. Alors, on ne sait pas, Monsieur Chalençon, qui est un animateur connu de la télévision, il était dans l'émission de Sophie Davant, a expliqué qu'il recevait des ministres. Mais on se dit qu'il fanfaronnait peut-être, en tout cas. Il expliquait que c'était de l'humour. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de l'humour. Mais son avocat, Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur des objets de Napoléon, a toujours apprécié faire de l'humour. Bon, je sais pas si c'est très drôle ou pas, mais
humour ou pas, je pense que les gens qui gravitent autour de, entre guillemets, les grandes sphères, les chefs d'entreprise, les politiques, les gens influents, se côtoient, faut pas non plus se leurrer.
Je suis pas sûr qu'ils soient le soir dans des dîners, je vous assure. Les gens riches, comme vous dites, ou très influents, ils ont d'abord les moyens de faire un dîner chez eux. S'ils veulent recevoir 4 ou 5 personnes chez eux avec un grand chef, c'est pas ce qui va les ennuyer.
Oui, mais est-ce qu'on est bien d'accord que normalement, c'est rare sont les gens qui ne reçoivent que 2 ou 3 personnes, ou moins de 6, comme le conseil le.
Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'ils aillent dans un lieu public. Si vous avez une personnalité en vue qui avait du pouvoir et de l'influence, vous gérez aussi votre image et je ne suis pas certain que vous alliez dans un restaurant où il y a 50 personnes qui seront là. Les gens sont un petit peu plus malins que ça, me semble-t-il. Ils feront ça peut-être chez eux, par définition, on ne le saura pas. Et ils feront peut-être, au lieu de faire, effectivement, on recommande d'être à 6 personnes, peut-être feront-ils 8 ou 10 personnes, mais ils le feront chez eux. Et ils paieront pas pour cela. Vous voyez, les gens dont vous parlez, en tout cas.
Sachant que ces personnes-là, la seule chose qu'ils risquent, c'est une amende de 135 € pour non-port du masque et 135 € pour non-respect du confinement. Ça fait 270 € au maximum. Pas de risque pénal, c'est une infraction.
Sauf Maxime, qu'ils risquent leur réputation. Les gens dont vous parlez, je parle, hein, les gens qui sont soit ministres, soit, comme vous avez dit, très grands chefs d'entreprise, etc., ils jouent leur réputation. Et ils gèrent, j'imagine, aussi leur image et leur réputation.
Si on reprend en février, vos confrères de journalistes qui ont été aussi épinglés pour
mais
avoir mangé...
Mais c'est démenti depuis, comme vous dites, mes confrères, c'est démenti, hein, et c'est démenti et c'est pas avéré.
Certes, c'est pas avéré, mais bon. Ce n'empêche.
C'est pas avéré, Maxime. Votre réponse est extraordinaire. Certes, c'est pas avéré. Donc ça s'arrête. c'est pas avéré, vous êtes rigolo.
c'est pas avéré, mais c'est pas non plus démenti à 100%.
D'abord, ça a été démenti à 100% et c'est pas avéré.
Non.
Je n'ai pas participé. Visiblement, ça, quoi, c'est pas visiblement d'ailleurs. Il n'y a pas de poursuite qui
a été
faite dans
ce sens.
Mais en
même temps,
il n'y a pas
de poursuite, parce que ce ne sont que des amendes. Donc, il n'y a pas d'arrestation, donc il n'y a pas de poursuite.
Non, mais il n'y a pas de... Je vous répète, il y a un moment, on ne peut pas parler de la présomption d'innocence en permanence sans essayer de l'appliquer.
Mais on est d'accord, mais forcément, il n'y a pas de poursuite, puisque ce ne sont pas des choses qui sont...
Non, mais même les amendes, il n'y a pas de journalistes qui ont été... qu'on reçu une amende.
Personnellement, je ne sais pas, j'en connais pas, donc je peux pas dire ça, je ne peux pas dire.
En tout cas, merci Maxime vous êtes le premier auditeur aujourd'hui, et on a beaucoup de sujets pour tout vous dire. Et bonne chance et courage à vous, parce que comme vous êtes restaurateur, c'est pas, j'imagine, la période la plus simple. Je vais saluer Greg Caranoni et j'ai une vraie question, pas une question d'ailleurs,
bonjour
une vraie réponse. Vous savez
il faut que je trouve la question.
Mais oui, l'info pour briller au dîner.
Oui.
C'est génial. J'ai appris ça il y a 2 heures, donc maintenant je ne m'en lasse pas. Je vais le répéter à tout le monde. Est-ce que vous savez pourquoi le lundi de Pâques est férié, sachant que le lundi de Pâques n'a rien de religieux. Vendredi saint, le Christ est crucifié. Dimanche, c'est la résurrection pour les catholiques. Mais le lundi, il n'y a rien de religieux. Alors pourquoi le lundi est-il férié ? La pause, et je pose la question
suspense.
À tous les auditeurs.
Oh là 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 là.
À tous les auditeurs. Ça, j'ai appris ça tout à l'heure, donc je suis très, très content. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro, l'info pour briller au dîner.
C'est pas tout de suite. Vous avez déjà la réponse ?
Oui, grâce à Wikipédia.
Il ne faut pas le dire, Wikipédia. Moi, je demandais aux auditeurs. Bonjour, Laurent Toussaint.
Bonjour, Pascal.
Laurent Toussaint. Laurent Tessier, j'appelle Laurent Toussaint.
Il n'y a pas de souci. Êtes-vous choqué par ces dîners clandestins luxueux à Paris, dans des lieux très sélects ? Un reportage de nos confrères de M6 diffusé ce week-end ne manque pas de faire réagir.
On n'a pas de masque. Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Les gens se sentent allés comme chez eux.
J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut.
Pierre-Jean Chalençon, qui évoquait la présence de ministres autour de la table, s'est finalement rétracté. Il affirme avoir fait seulement de l'humour. Une enquête a été ouverte par le procureur de Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi à ce reportage.
J'ai demandé immédiatement au préfet de police de Paris d'enquêter sur les faits qui sont annoncés dans ce reportage. Soit ils sont faux et il ne faut pas jeter l'opprobre, évidemment, soit ils sont vrais et évidemment sur le travail que pourra faire les services de police. Les personnes doivent pouvoir être poursuivies et j'imagine condamné.
Restaurateur, qu'avez-vous pensé de ces images? Comment qualifiez-vous ces dîners? Eh bien, Claire s'énerve sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Vous pensiez vraiment que les grands de ce monde étaient confinés? Ils sont déconnectés de la réalité, rajoute Eric. Tout ce qui nous concerne ne touche pas ces gens. Et pendant ce temps-là, Lance Ludovic, on peut se prendre une amende si on rentre chez soi après 19h15. Et Thierry n'est pas étonné, le pouvoir, l'argent font tourner la tête. On ne vit décidément pas dans le même monde.
Merci Laurent. Et un autre Laurent s'avance, qui est également restaurateur, manifestement à Colmar. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour. Bonjour Pascal.
Merci. Quel est votre sentiment sur cette information?
Quand j'ai vu ça hier, c'est vrai que les bras m'en sont un petit peu tombés, clairement. Enfin, surtout si la présence d'élus, enfin de ministres a été confirmée. Parce que là, on tombe sur le coup du fameux adage « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Nous, en tant que restaurateurs, enfin, moi personnellement, je suis un carreau depuis pratiquement 6 mois maintenant, puisqu'on entame notre 6e mois de fermeture. On fait plein d'efforts, on s'adapte pour que notre activité de traiteur tourne aussi, et puis qu'il y ait des soirées comme ça qui s'organisent de manière clandestine. Alors est-ce que c'est vraiment dans un restaurant ou si c'est chez un privé? C'est clair qu'il y a un petit peu une différence quand même, puisque c'est clair que les établissements recevant du public sont fermés. Les soirées privées, en principe, sont juste sous le coup du couvre-feu. Hein, donc, faire une soirée chez quelqu'un, c'est pas interdit. On peut y rester. Hein, il faut juste ne pas rentrer chez soi.
Bien sûr.
Maintenant, de là, est-ce que de là à faire des soirées en plus sans masque, sans respecter les gestes barrières, etc. Voilà, il faut quand on est un ministre, il faut qu'on montre l'exemple. Hein, clairement, on doit être irréprochable. J'y crois pas trop, moi, à cette histoire. Effectivement, vous parliez tout à l'heure de fanfaronnade de la part de monsieur de l'ancien animateur de l'affaire conclu. J'y crois assez à ce genre de fanfaronnade, effectivement, quoi.
Non, mais monsieur Chalençon, que je connais pas non plus, mais il ne fait peut-être pas bon être son ami, parce que il te balance sur la voie publique ou sur la scène publique, et t'as peut-être pas envie, si t'es son ami, que chacun sache que t'étais dans une soirée ou dans un moment où tu n'avais pas à y être. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le name dropping. Vous savez, les gens qui connaissent parfois des stars, des personnalités comme ça, et qui égrènent leur conversation de ces noms-là.
Ouais, c'est effectivement, c'est un petit peu un
c'est pas très chic, quoi. C'est pas très classe.
C'est pas très chic, non.
C'est pas très classe.
Pas du tout.
Bon, comment vous en sortez, vous, Laurent? Par exemple, on avait un restaurateur tout à l'heure qui disait qu'il n'était pas payé depuis décembre. Ouais, vous êtes payé?
Nous, on a franchement, honnêtement, on avait récemment, la semaine dernière, l'Assemblée Générale, notre syndicat qui est l'UMI au niveau du département du Haut-Rhin. Évidemment, les choses ne sont pas faciles pour personne.
Mais vous avez été payé, par exemple, ces dernières semaines?
Mais on a tous les mois, le chômage partiel tombe, tous les mois.
C'est ça, j'ai jamais deux restaurateurs qui me disent la même chose. Donc, alors pourquoi lui, pourquoi Maxime, il n'avait pas ça?
Qui change de comptable. On a un très bon comptable qui suit nos affaires. En même temps, nous, on les suit aussi, quoi. Dès que ça dure un petit peu trop longtemps, on essaie de faire des relances. Mais je n'ai aucun souci depuis. Honnêtement, depuis qu'on est fermé, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas un seul souci de trésorerie. On fait attention aux dépenses, etc. Mais on est aidé. Voilà.
Bon, vous avez 20% du dernier chiffre d'affaires l'année dernière.
De 2019, exactement.
De 2019, pas 2020.
Ouais. Non,
oui, parce que vous étiez fermé.
Non. Exact.
C'est bon, donc 2019. Ça. Mais ces 20%, parce que j'entends tout et son contraire, ces 20%, ils vous permettent de couvrir vos frais, ou mieux que ça, ils vous permettent de gagner de l'argent? Parce que j'entends parfois que des restaurateurs gagnent mieux leur vie qu'ils ne la gagnaient lorsqu'ils étaient ouverts.
Bon, je mène pas mieux ma vie, hein, clairement, pas du tout, non. Ça permet effectivement de couvrir les frais. On n'a pas le problème de trésorerie, mais bon, on fait pas non plus des.
Vous n'avez pas de frais. Le chômage partiel, c'est pas vous. Et le click and collect, je sais pas si vous le faites ou pas, mais le click and.
Bien sûr qu'on le fait.
Donc le click and collect, il n'est pas imposé. Ça rentre direct, si j'ose dire, dans votre poche.
Ah bah. Ah non, non, le click and collect, ça rentre directement dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et les aides aussi, hein. Je veux dire, ça rentre pas dans nos poches, pas du tout, hein. Ça permet, enfin, de se maintenir à flot, quoi. Nous, aujourd'hui, la vente à emporter représente 30% de notre chiffre d'affaires habituel. Plus les aides, plus le chômage partiel, puisque les personnels ne travaillent pas forcément à 35 ou 39 heures actuellement, nous permet effectivement de nous maintenir à flot, quoi. Et de ne pas mettre en danger notre entreprise.
Bon. Voilà. Bah écoutez, ça c'est plutôt une bonne chose pour vous. Et merci Laurent de ce témoignage. Je vais retourner vers Grégory, parce que Grégory, alors s'il a trouvé la solution, pourquoi le lundi de Pâques est férié? C'était l'info à
l'info briller. Pour briller. L'info pour vous briller. Allez nous le dire alors.
Non,
vous exprimez beaucoup mieux que moi. Ce sera nettement mieux mis en avant comme information.
Touchez ma bosse, monseigneur. Elle vous portera bonheur. Non, mais alors, paraît-il que après le dimanche de Pâques, jadis, jusqu'à Napoléon, les 5 jours qui suivaient étaient chômés. Pourquoi ? Parce que on devait faire un pèlerinage. Et Napoléon a mis fin à tout cela avec le Concordat. Et en revanche, peut-être parce qu'il a négocié, il a gardé une journée chômée derrière le dimanche de la résurrection. Et évidemment, c'était le lundi. Donc on a gardé la tradition du lundi de Pâques. Mais je me dis, quelle modernité chez Napoléon, déjà, d'imaginer qu'il fallait couper les liens entre l'État et l'Église, mais en même temps de garder, parce que ça devait être compliqué dans la France du 19e siècle, début du 19e siècle, de couper tout. Avec la religion catholique. C'est bien ça ?
C'est exactement ça. Ah. Je me dis du coup, la prochaine fois, plutôt que de chercher quelque chose sur Google, je vous enverrai un SMS.
Mais attends, non, parce que je l'ai appris, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Ça, je ne le savais pas. Et je vous l'ai déjà dit. Mais quelqu'un qui sait quelque chose depuis 1 heure, 2 heures, 3 jours et qu'il répète en permanence. Proust appelait ça les savants de la veille. Et je trouve cette expression formidable parce que nous sommes souvent cernés par des savants de la veille.
Et vous ne voulez pas faire de name dropping en nous disant qui vous a appris ça ?
Si, je pourrais vous le dire d'ailleurs. J'ai eu un texto ce matin. Vous voulez vraiment que je vous le dise ? C'est Charlotte Dornelas qui me l'a appris, qui est journaliste à Valeurs Actuelles et qui m'a appris ça ce matin. Donc voilà.
On saura tout.
La transparence. La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Des dîners parisiens aussi luxueux que clandestins malgré la pandémie. Le procureur de Paris, Rémy Heitz, je vous le rappelle, a ouvert dimanche une enquête pénale après un reportage de M6 sur des chefs qui mettraient en danger autrui et de travail dissimulé. Nous sommes avec Elisabeth. Bonjour.
Bonjour. Bon, alors moi, merci quand j'ai entendu cette nouvelle. D'abord, je me suis dit, c'est pas vrai. Et puis, si ça s'avère exact, alors là, je suis désespérée. Vraiment désespérée. Parce que, mais on n'en peut plus, là. Hein. C'est la double peine. Parce qu'on a d'abord eu le président de l'Assemblée nationale avec les homards et le caviar. Maintenant, on a les ministres qui
C'était vont... C'était M. De Rugy.
Oui, voilà.
Je ne suis pas sûr qu'il y avait du caviar. C'est marrant que vous dites, parce que je pense qu'il n'y avait que du homard, mais maintenant vous rajoutez le caviar. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il n'y avait pas de caviar.
Il n'y
avait
que du homard.
Il n'y avait que du homard. Donc...
Il n'y avait que du homard.
Bon. Oui, mais bon, c'est le... On ne prête qu'au riche, c'est le cas de le dire.
Exactement. Alors maintenant, les ministres, bon, si vraiment ça s'avère exact, j'estime que c'est une faute grave. Même, on parlait tout à l'heure des présidents des hautes sociétés françaises. Là. Bon, s'ils font ça, ce sont des fautes graves. Donc, ils sont punis et les ministres, ils démissionnent illico presto.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est précisément, je pense pas que les gens soient, je peux me tromper, je peux être naïf, mais je n'imagine pas que Bruno Le Maire, Roselyne Bachelot ou des ministres, avec leur notoriété, aller dans un endroit au milieu de gens où il y a 50 personnes avec des portables, avec des photos, etc. Ou alors ils sont...
Non, ça, je suis comme vous, je n'y crois pas. Voilà, mais il y a aussi des secrétaires d'État, c'est pareil.
Ça serait une bêtise tellement incroyable que je n'y crois pas. Mais je vous répète, je suis peut-être naïf. Hein.
Eh bien voilà, je suis comme vous. Je vous dis vraiment, je suis désespérée si c'est vrai, si ça s'avère exact. Mais il y a aussi des secrétaires d'État, toutes ces personnes-là. Ils doivent donner l'exemple. Le début de l'éducation, c'est l'exemple. Je sais que là-dessus ça ne marche pas. Mais enfin, lorsqu'on est secrétaire d'État, qu'on est au gouvernement, on ne fait pas ce que l'on veut.
Je suis d'accord avec vous, mais il est possible que M. Chalençon est fanfaronné. et dit des choses qui sont...
D'accord, mais on n'est pas amis avec M. Chalençon.
Protégez-moi de mes... Protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Et
complètement.
Bah oui, mais écoutez, d'abord, vous savez, la notion d'amitié dans ces cas-là, elle est un peu légère.
Oui, c'est-à-dire que voilà. Je suis désolée. C'est voilà. Pas ça de l'amitié.
Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'invite, manifestement, qui te régale, si vous me permettez ce terme un peu trivial. Et peut-être que certains ont la faiblesse de tomber dans ce panneau-là.
C'est possible. Mais alors, il ne faut pas qu'ils soient à la tête du gouvernement, au gouvernement,
mais
pas à la
tête,
mais dans
pas.
Le gouvernement.
Oui, mais Elisabeth, il n'y a pas le début d'une preuve.
Ah ben, je suis d'accord avec vous.
Donc,
je vous dis si ça s'avère exact.
En fait, le sujet, il existe par lui-même parce que il y a déjà, et ça c'est en soi étonnant, voire scandaleux, il y a déjà des restaurants clandestins dans Paris.
Mais c'est là aussi.
Avec une clientèle déjà en soi, et c'était ça l'intérêt du reportage d'M6, c'est de montrer que ça existe.
Mais alors si on les connaît, si on sait qui c'est, tout de suite on les ferme. Et puis ils sont, qu'est-ce que vous voulez, ils sont traduits en justice. Comment voulez-vous?
Oui, vous n'allez pas les mettre au bagne non plus.
Non, mais en revanche, il faut effectivement que... Non, mais c'est ceux qui vont dîner, qui en profitent, qui sont aussi pareils.
Oui, en plus, alors moi j'ai le repas sous les yeux, c'est pas donné, hein, c'est pas...
Ah ben, ça, je m'en doute. Donc c'est pas le SMICA qui va y aller, hein.
Ah non, puisque le repas c'est 130, 160, 220 euros par personne.
Et voilà.
Il y a des menus, par exemple, il y a un hommage à Johnny Hallyday, il fallait débourser 290 euros. Certains jours, les prix pouvaient grimper jusqu'à 380 euros.
Non, mais vous
menu, le meilleur de ma cuisine, et même 490 euros pour menu, ma cuisine en fait. Parfois, un invité était annoncé comme animateur de ses repas.
Quand vous voyez ça, ça va être 89, hein ? Et ça, je le comprends.
17, ça, vous voulez dire 1789 ?
Bah écoutez, on descend dans la rue.
On disait que Marie-Antoinette,
c'est pour, pourquoi ? Bon, elle mangeait de la brioche. Ils sont descendus dans la rue.
Elle mangeait pas de la brioche, mais c'est un mot apocryphe qu'elle n'aurait jamais dit. C'est-à-dire qu'on lui aurait dit ils n'ont plus de pain, et elle a dit ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche.
Oui, je sais. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Non, des élus doivent donner l'exemple. Alors, et puis même, comme vous dites, ce dîner-là, c'est inadmissible, c'est lamentable.
Oui, Elisabeth, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai pour les ministres, mais en revanche, c'est vrai pour les autres. Oui,
pour les autres, c'est lamentable aussi. Parce que les autres ont les moyens de s'offrir des... Bah, écoutez, c'est facile à connaître. Hein. Bon,
c'est-à-dire
on les met au banc de la société.
Ah oui, quasiment.
Ah bah carrément. Bah, écoutez, en ce moment, vous vous rendez compte? Il y a des gens qui n'en peuvent plus.
Je suis d'accord avec vous, mais il y a peut-être dans la hiérarchie des horreurs. On a eu, par exemple, ce week-end, quatre... jeunes hommes, ou pas jeunes d'ailleurs, qui se sont introduits dans une maison pour ligoter, torturer, maltraiter Bernard Tapie et son épouse. Bon.
Si on les trouve, il ne faut pas les rater.
Voilà, ceux-là, je veux bien les mettre au banc de la société, pour reprendre votre expression. Il y a peut-être une hiérarchie. Mais en revanche, ces gens qui ont enfreint la loi, il faut tout simplement qu'ils reçoivent ou des amendes ou la punition qui soit appropriée. Mais symboliquement, je sais que ça choque les gens. La preuve, il y a un côté esprit de classe que vous venez de dire, et ça, c'était très présent dans les réseaux sociaux, évidemment. Merci, Elisabeth.
On les teste. Ils sont malades. Ils ont le Covid. Ils vont à l'hôpital. Ils payent leur, l'hôpital. Oui, parce que c'est nous qui payons pour eux. Quand même, la solution, on l'indique pas là.
Oui.
Vous l'avez pas eu dans vos dîners parisiens, Pascal?
Mais non, parce que je vous dis, j'ai donné mon... Mais d'abord, j'ai pas de dîner parisien, moi. Vous savez, je fais pas de dîner. Donc, je rentre chez moi le soir, je me lève tôt le matin, je me couche tôt le soir et j'essaye d'être en forme dans la journée pour pas dire de bêtises. Donc, pas de dîner. Et je travaille le lundi de Pâques. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Elle est partie, Elisabeth. Elle n'aimait pas trop Marie-Antoinette. La brioche. Vous connaissez cette histoire, alors qu'il y a un petit peu, comme ça, esprit de classe. C'est un mendiant qui est à la porte d'une église, comme ça. Et puis, il voit passer une femme très élégante, et il se trouve qu'elle est duchesse, vraiment à un très haut niveau de l'aristocratie. Et elle dit, madame, j'ai pas mangé depuis 8 jours. Et la duchesse dit, faut vous forcer, mon brave. Faut vous forcer. Bah, c'est un peu comme Marie-Antoinette, la brioche et le pain.
J'ai appris le mot apocryphe également il y a quelques instants.
Apocryphe ?
Oui.
Oh, apocryphe, c'est courant. Il est 13h29, c'est lundi de Pâques. Est-ce que vous savez... Ah non, j'ai déjà posé la question.
Vous voulez que je remette le jingle, l'info pour briller ?
Non. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro,
Laurent Tessier.
L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Alors, c'est la phrase qui a fait réagir tout le week-end. Des propos tenus par la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers, Léonore Monconduit. Le conseil municipal de la ville a voté le 29 mars une baisse de subvention à 12 aéroclubs.
Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants, en fait. Enfin, l'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui.
Réaction du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il était l'invité hier du Grand Jury sur RTL.
Dire qu'il faut changer les rêves des enfants, ça m'inquiète au plus profond de moi-même. Je n'ai aucune envie que la maire de Poitiers change les rêves de mes enfants. Les rêves de mes enfants n'appartiennent qu'à mes enfants. Aucun responsable politique, d'aucun bord, n'a de droit de toucher aux rêves des enfants français.
Qu'en pensez-vous? Les politiques doivent-ils se mêler des rêves de nos enfants? Ces maires écolos vont trop loin, dénonce Véronique sur nos réseaux sociaux. Chaque semaine, ils créent une polémique. Respect et laissez nos enfants tranquilles, demande Fred. Partagez-vous ces avis. 32-10. Vous méfiez-vous encore du vaccin AstraZeneca? Plus de 1100 doses n'ont pas trouvé preneur ce week-end dans la région des Hauts-de-France. Cette méfiance inquiète-t-elle l'infectiologue Benjamin Davidot, invité de RTL Midi?
Oui, elle m'inquiète parce qu'elle risque d'entacher durablement la campagne de vaccination et qu'on se retrouve aujourd'hui, même si on ne veut pas le dire, avec un vaccin de deuxième rang.
Ce vaccin vous inquiète-t-il toujours? Vous avez passé votre tour pour tenter d'avoir celui de Pfizer. Eh bien, aucune inquiétude pour Patrick sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. J'ai eu l'AstraZeneca, je préfère être vacciné que de rejoindre l'équipe des méfiants. Ces cas de thrombose font peur, réagit Christiane, mais on ne parle que de quelques cas. Le risque zéro n'existe pas.
L'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. C'est vrai que cette phrase dite par Madame Monconduit est folle. Je parle de la phrase, hein, bien sûr. Cette phrase est folle parce que même dans les pires régimes totalitaires, je n'ai pas souvenance qu'on imagine contrôler les rêves des uns et des autres. Donc je ne doute pas que ça vous fera réagir. Monique est là et Monique voulait parler des restaurateurs. Est-ce que ça fait vraiment parler des restaurateurs? Et notamment ce rapport de classe, disons-le.
Bonjour Pascal.
Bonjour Monique.
Qui peut ça va, vous allez bien?
Et vous-même Monique?
Ben ça va, mais il y en a un peu marre d'être enfermé. Heureusement qu'il y a RTL et France Musique.
Oui, mais en tout, je
et
rappelle...
Surtout RTL d'ailleurs.
Oui, surtout RTL, vous faites bien de le dire. Mais oh, je rappelle que vous pouvez sortir, Monique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez le droit.
Oui, enfin, écoutez, pour faire quoi? On ne peut pas aller au musée, on ne peut pas aller boire un thé avec des amis.
D'abord, vous pouvez boire un thé dehors avec des amis, si vous le souhaitez, dans un jardin. Dans un jardin.
Non, ça, je ne vois pas l'intérêt. Moi, j'ai envie d'aller au concert, j'ai envie d'aller à l'opéra,
ça, vous pouvez pas.
J'ai envie d'aller au cinéma. Eh bien, oui.
Donc, mais vous avez le droit de...
Je vais vous dire, je ne supporte pas d'avoir le masque sur la figure toute la journée.
Donc vous restez chez vous toute seule?
Ouais.
Quoi, toute seule ou pas d'ailleurs?
Non, disons que je ne suis pas toute seule puisqu'il y a la radio.
Oui, je suis d'accord, mais vous n'avez pas... Enfin, il y a un moment, il faut sortir quand même. Vous restez toute seule dans votre journée, toute la journée, toute la sainte journée.
Non, mais je vois quand même des amis de temps en temps. Hein. Là, je suis invitée à un anniversaire dans 15 jours, mais je vous rassure tout de suite.
Et vous serez combien dans l'anniversaire?
4.
Ah, d'accord, c'est raisonnable.
Dans un grand appartement à côté du Panthéon, immense, l'appartement. Non, c'est pas dans le Panthéon, hein, je vous rassure.
Oui, parce que si vous êtes... N'y allez pas trop rapidement, en tout cas, peut-être que vous y entrerez, mais le plus tard possible.
Panthéon, je préfère être enterré aux Invalides qu'au Panthéon, vous le leur direz. Hein.
Bah, je n'y manquerai pas. Mais
oui. À côté du maréchal Leclerc.
Pourquoi pas non plus? Mais Monique, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette information des restaurateurs et des clients?
Alors déjà, quand j'ai entendu Yuka lui en parler ce matin, j'ai cru que j'allais tomber de mon lit. J'ai trouvé que c'était lamentable, pitoyable, consternant. Alors déjà, Chalençon qui est allé capter, s'il était avec eux, je trouve ça vraiment... ça rappelle les... Enfin bon, moi j'ai pas connu les années de guerre, mais bon, j'ai étudié l'histoire. Hein. Moi j'avais la guerre 39-45, l'année du bac. Hein. Donc on se rappelle de tout ça. Hein. Tous les gens, d'ailleurs Lustiger aussi en parlait, l'ancien cardinal, archevêque de Paris, qui disait que bon, ben, on avait dénoncé les parents pour avoir le commerce de bonneterie et l'appartement. Donc Chalençon, il fait exactement ce qu'ont fait les collabos en 39-45. Ça, je trouve ça dégueulasse. Bon, ceci dit, moi je peux vous dire que j'ai vu un établissement à Paris fermé 15 jours il y a à peu près un mois parce qu'ils avaient reçu des gens à déjeuner ou à dîner, j'en sais rien. Je pense que c'était à déjeuner. Il a été fermé 15 jours cet établissement.
Je il a été fermé, mais il est fermé. Il est fermé.
Ah non, il est réouvert là. C'est pas un café, c'est pas un restaurant. Hein.
Mais, pardonnez-moi, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu être fermé puisque tout est fermé.
C'est un traiteur.
traiteur, Pascal.
Ah, un traiteur.
Où il y a quelque chose derrière, d'accord, où vous pouvez manger. Ah, et donc, ah, bah quelqu'un oui, a cafeté, ils, d'accord, sont venus, ils ont eu des amendes. Enfin, bon,
et ils ont fermé 15 jours. Dire... Et en plus, alors lui, il a la chance d'être ouvert. Mais ceux, je le répète, qui ouvrent, alors que par définition, ils n'ont pas
lamentable,
le droit. D'abord, c'est alors, lamentable, peut-être. Moi, mais surtout, ils n'auront plus les aides.
Ah ben, c'est bien fait pour eux. Alors ça, ils l'ont pas volé. Hein. Alors ça, ils l'ont pas volé. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Moi, l'histoire des ministres, j'ai du mal à le croire. Hein. Moi, je peux vous en citer trois. Je mettrai ma main au feu et je ne brûlerai pas. C'est Roselyne Bachelot, Bruno Le Maire, que j'aime beaucoup, et Éric Dupond-Moretti. Alors ça, alors là...
Là, vous pensez que leur intégrité est totale à ces trois-là?
Ouais. Oui, alors là, je serais vachement déçu si c'était faux. Hein.
Bon, vous ne faites... Est-ce que vous faites des... entorse au règlement?
Non.
Jamais?
Non. Non. Depuis un an, je n'ai fait aucune entorse.
Aucune.
Je suis partie à la Toussaint chez ma sœur et mon beau-frère à côté d'Albi. Quand le président a décidé de nous reconfiner, moi j'avais mon ordinateur qui avait des soucis. J'ai dit à ma sœur, écoute, moi je remonte à Paris parce que je veux récupérer l'ordinateur. Si après je ne peux pas aller le chercher, je vais être en kikiné. Donc je suis restée 2 jours à Albi. Et après j'étais confinée. Puis,
et vous ne sortez pas. Donc par exemple, non, aujourd'hui c'est lundi de Pâques, votre programme ça va être quoi aujourd'hui?
Ah ben cet après-midi, je vais écouter une émission qui s'appelle Relax sur France Musique, que j'écoute tous les jours.
Bon. Ok, j'ai bien fait de poser une question.
Bonne question, Pascal.
J'ai le droit à une deuxième question. Il n'est pas prévu, par exemple, que vous alliez faire un petit tour dehors?
Ben, je suis sortie ce matin. Hein.
D'accord.
Donc, je suis allée faire des courses. Hein.
D'abord, vous faites ce que vous voulez. Hein.
Mais y a rien,
que les choses soient claires, Monique. Moi, je vous oblige à rien. Mais bon.
Écoutez, quand vous allez sortir, oui, venez me chercher, on va aller faire un tour.
Ben, moi, j'ai un emploi du temps un peu,
ah,
un peu chargé,
vous, hein,
puisque je travaille. Donc, donc vous écoutez votre maison, votre radio, et puis après, donc, quel est le programme dans ces cas-là? Moi, j'aime bien savoir ce que font les uns et les autres. Qu'est-ce que vous faites après je
regarde Slam.
Oui.
Et après, je regarde le cher Yves Calvi sur à l'info du vrai, mais je crois qu'il n'y est pas ce soir.
D'accord. Donc,
c'est le lundi de Pâques, il n'y est pas.
Et hein, le dîner se fait après?
Oui.
Après.
Bon, bah, je mange quand j'ai envie, hein, de toute façon.
Oui,
moi,
bah, c'est, mais
bon,
vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs, je le répète.
Bah, il manque plus que ça.
Bah, écoutez, Monique, c'est toujours un plaisir.
Non, mais les autres, non, mais ils sont vraiment lamentables. Moi, je les prendrai, tous ces gens-là. Je les mettrai en garde à vue et je te les filerai dans une cellule. Pendant 3 jours, ça leur apprendrait à vivre. Mmh. Et alors, en plus, je leur filerai des amendes. Hein. Ah non, attendez.
Monique,
c'est catastrophique. Hein.
On va parler de Poitiers, figurez-vous, après la pause. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle pense du Futuroscope, cette mère de Poitiers. Parce que le Futuroscope, par définition, c'est dans les airs, non? Un peu, quoi. Il y a des choses...
Ben, moi, je le vois quand je prends le train pour aller à Toulouse.
Oui.
On le voit de la voie ferrée. Mais je n'y suis jamais allée. Je ne connais pas Poitiers.
Non. Comme vous avez un peu de temps libre...
Je connais que Charles Martel.
Oui,
qui a arrêté les Arabes.
Oui, bah, et Monique, si on pouvait éviter ce genre de...
Il vaudrait mieux que je me taise là.
Voilà, ce genre de plaisanterie que je ne saurais cautionner.
Ouais, non, mais écoutez, Pascal, on ne peut plus rien dire maintenant.
Mais si, on peut dire plein de choses rigolotes.
Mais ça fait partie de l'histoire, Charles Martel.
Mais bien sûr, mais pourquoi parler de Charles Martel un jour de Pâques?
Mais
je parle de Poitiers. Et on pourrait faire un sketch, on pourrait faire du Poiret et Céron. Vous savez, je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose. Il y a quelque chose entre nous.
Oui,
c'est juste dommage que les salles de spectacle soient fermées.
Mais bien sûr, dans Poiret et Céron, il y a un des sketchs les plus extraordinaires, je trouve, c'est quand Poiret interroge Céron, qui est musicien et qui joue du hautbois.
Et, ça, c'est excellent.
Et Céron dit, vous savez, c'est très réglementé le hautbois. D'ailleurs, on n'a pas le droit de fumer en même temps qu'on joue du hautbois.
Ah oui,
et Poiret marque un temps et dit, oui, c'est entendu, mais en même temps, ce serait pas très pratique de fumer en jouant du hautbois. Et Céron dit, mais c'est pas le problème, c'est interdit. La conversation monte comme ça. Poiret dit, oui, j'entends bien, mais bon. Et
bien
là, c'est un peu notre dialogue. Vous voyez, bienvenue en absurdie, pourquoi pas. Mais c'est bien l'absurdie.
Oui.
De temps en temps, Monique.
Faire,
merci.
Oui, ça fait du bien.
Merci, cher Monique.
Pascal.
Vraiment,
merci,
bon lundi de Pâques.
Oui, ben, j'ai vu que vous aviez appris que le lundi de Pâques était, pourquoi il était férié.
Voilà.
Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'avant les vendredis, moi, je travaillais à la banque,
oui,
on avait le vendredi après-midi pour pouvoir aller au chemin de croix.
Bien sûr, bien sûr.
Et
alors
ça a été supprimé il y a pas mal d'années. Hein.
Déjà, le vendredi, les banquiers, j'allais dire que c'était pas gentil ce que j'allais dire. Donc, je le garde pour moi. Mais bon, en tout cas, merci Monique. Et on vous embrasse et puis on salue également l'ami.
Je travaillais les jours fériés moi à la banque.
Oui, bah. Mais moi aussi, on travaille les jours fériés, figurez-vous.
Oui, mais nous, on avait des primes quand
vous savez ce qu'on va faire? On va vraiment monter un spectacle tous les deux, mais on va laisser passer une pause là quand même. Hein. Et puis on salue l'ami Cyprien Sini parce que.
Je l'adore lui.
Bah, il nous écoute. Donc il dit.
Il est super.
il est super. Vous avez
raison. J'ai le titre de votre spectacle.
Oui. Un voyage en absurdité. Que je fais lorsque je m'ennuie. Sardou, maléfique, formidable. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier qui est toujours là.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Frappés, ligotés, cambriolés, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été violentés dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre hommes se sont introduits dans leur maison en Seine-et-Marne avant de prendre la fuite avec des bijoux. René Malville, supporter emblématique de Marseille, a réagi au micro RTL du Guable.
C'est scandaleux, on est outré à Marseille, on est à l'envers. C'est Bernard Tapie, c'est notre boss à Marseille. Il est malade, il a le cancer et... C'est vraiment des sous-merdes, quoi, ça. J'ai un appel à faire à Bernard Tapie et à sa femme qui viennent habiter à Marseille. Et là, ils seront gardés 24 heures sur 24.
Cette agression est ignoble, scandaleuse, écrit Thierry sur nos réseaux sociaux. Ce phénomène est quasi quotidien. J'en ai marre de cette violence gratuite. Courage à Bernard Tapie et son épouse Dominique Lance-Caroline. Vous pourrez réagir dans l'émission d'ici 14h30.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Paris est-elle une ville sale? Sur Twitter, des internautes dénoncent la saleté de Paris et critiquent certains aménagements urbains avec le hashtag Saccage Paris. La mairie dénonce une campagne de dénigrement et parle de photos anciennes ou prises avant le passage des équipes de la propreté. Et puis l'info.
Non essentiel.
Non essentiel.
Ah, selon un site de rencontre extra-conjugale, Pascal, Lille est la ville la plus infidèle de France. Alors le site a fait son petit calcul entre le nombre d'habitants, le nombre d'inscrits sur sa plateforme. Le taux d'infidélité serait de 29% en seconde position Paris.
29%
Un Lillois sur 3. Après voilà, Bordeaux est sur la troisième place du podium. C'est un chiffre d'un site de rencontre. Donc après vous en faites ce que vous voulez.
Ça c'est très étrange. Alors c'est bien. On a un auditeur un peu particulier parce qu'il nous écoutait et il voulait partager ce moment avec nous de lundi de Pâques. Donc c'est Cyprien Sini, donc on l'a appelé. Mais pourquoi vous nous avez appelé Cyprien?
Ah ben, je suis en...
Bonjour.
Écoute, depuis tout à l'heure, je me régale.
Mais pourquoi vous vous régalez?
Parce que l'émission est en réalité phonique, notamment votre dispute qui avait à l'instant, qui était très drôle, très sympathique.
Oui, mais alors...
Alors quand je vous écoute, je vous envoie un petit message pour vous dire que c'est formidable.
Bon, ben, c'est très gentil, mais comme la liaison n'est pas sécurisée, comme je le dis, vous êtes un auditeur, vous êtes en Bluetooth, peut-être.
En Bluetooth dans la voiture.
Dans la voiture. Bon, ben, écoutez-nous, Cyprien, et on vous écoute. Vous savez ce que le surf que vous allez faire déjà demain matin?
Ah ben non, je suis en route pour la radio, pour travailler, pour trouver des idées.
Bon ben venez, on va vous en donner, nous, on les vend pas cher, les idées. Merci Cyprien.
Bravo.
Bon, rendez-vous demain matin. Rendez-vous demain matin. Poitiers.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Poitiers, le conseil municipal de Poitiers du 29 mars a voté une baisse de subvention à deux aéroclubs de Poitiers. Lors du débat, la maire Léonore Monconduit a dit assumer le fait que l'argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables. Et elle a ajouté, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Le souci c'est que c'est une maire écologiste qui dit une sottise, qui dit en tout cas quelque chose qu'on peut attaquer. Après le maire de Lyon qui ne souhaitait pas que le Tour de France passe dans sa ville, après le maire de Bordeaux qui ne souhaitait pas qu'il y ait de sapin de Noël précisément à Noël. Donc c'est vrai, nos amis les maires écologistes, ils sont étranges. Bonjour Marc, vous êtes pilote privé.
Oui, bonjour.
Vous êtes pilote privé.
Bonjour.
Bonjour et merci.
Voilà, oui, je suis pilote privé. Alors moi, je réagis à cette nouvelle sur deux niveaux. Le premier niveau, et c'est celui que les médias se sont emparés, c'est le problème de la mère qui nous dit les rêves de gosse, l'aérien doit disparaître. Ça, c'est un premier sujet. Et puis il y a un deuxième sujet qui, à mon avis, est plus important. C'est le fait que les écologistes sont persuadés que l'aviation est une cause de pollution. Alors, évidemment, il y a les avions d'aéroclub, et puis il y a aussi les avions de ligne. Voilà, donc moi je m'insurge contre ces deux choses. Et j'ai d'ailleurs beaucoup réagi sur les réseaux sociaux à ce sujet, parce que je pense que les écolos, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont très très dogmatiques. Ils ne raisonnent pas ni de manière scientifique, ni de manière... ils n'ont pas de bon sens, et ils raisonnent par rapport à des dogmes. Et pour eux, le dogme, c'est que le moteur doit être prohibé à tout prix.
Oui, je vous écoute. Ouais, hein, je vous écoute.
Oui, oui. Alors, effectivement, moi, je suis pilote privé avion, donc j'ai un avis partisan. C'est évident, puisque c'est mon truc. Hein. C'est mon truc pour peut-être encore quelques années, mais c'est mon truc. Ce que je veux dire, c'est que... Regardez l'histoire de l'aviation. L'histoire de l'aviation, elle est énormément française. Un peu américaine, un peu anglaise, mais elle est énormément française. Et tous les grands pilotes français et les pilotes françaises, ils sont tous passés par les aéroclubs.
Oui, et puis ils ont formé un imaginaire. Saint-Exupéry, Mermoz, oui, voilà, Roland-Garros, c'est un imaginaire français.
Un imaginaire, mais aussi...
C'est un imaginaire d'aventure, hein,
oui, mais aussi
d'explorateur.
Une belle réalité. Une belle réalité. Il y avait l'imaginaire, mais il y avait une belle réalité. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des pilotes de ligne, la plupart des pilotes de chasse, sont tous partis d'un aéroclub. Tous. Pratiquement tous. Donc, cette histoire de s'en prendre aux aéroclubs, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit.
Bien sûr.
Le terrain de Poitiers, moi, je suis allé me poser à Poitiers. Pourquoi ? Pour aller au Futuroscope. Il y a une petite dame avant qui disait qu'avec le train, elle voyait le film. Moi, je suis allé à Poitiers pour le Futuroscope. Bon, évidemment, je suis privilégié. J'y vais avec un avion léger, donc voilà. Et je mets que 2 heures, alors qu'en bagnole, il me faut un temps fou. Voilà. Mais... C'est vachement important, les aéroclubs. C'est super important.
Merci, Marc. Non, je vous en prie, concluez.
Alors, cette histoire de rêve de gosse, ça m'a c'est pour ça que j'ai réagi, parce qu'il y a en France une association qui s'appelle vraiment Rêve de gosse. Elle a été fondée par un type que j'ai un peu perdu de vue, parce qu'on se voyait sur les aérodromes, qui habite dans le sud. Et l'objectif, c'est de faire le tour de France avec des avions légers. Et à chaque étape, on fait voler des enfants handicapés. Et le truc s'appelle Rêve de gosse. Donc, et cette mère Poitiers, bon, elle est bien gentille, elle est bien mignonne et tout ça. Mais enfin, elle a trouvé le moyen de s'emparer de cette expression pour taper sur l'aviation.
Ben merci. Merci beaucoup, Marc. Mais c'est vrai que vous avez employé le mot dogmatisme. Et c'est le problème des gens qui sont pénétrés, investis d'une mission, qui sont persuadés qu'ils ont raison et que c'est nous qui sommes dans le mauvais camp. Et ils sont assez sourds, au fond, à tous les arguments. Pour eux, nous sommes le diable, le mal. Et effectivement, cette mère de Poitiers pense, sans doute, que l'aviation est le mal absolu. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. On est sur des radicalités qui sont étranges. Et puis cette phrase, quand même, je vous le dis... contrôler le rêve des enfants, quoi. C'est des psychologies quand même. Je vais contrôler ton rêve. 13h52. Mon rêve, c'est d'être avec Monsieur Caranoni ce lundi.
Très bien.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Elias, bonjour, qui est pilote privé également, qui a 28 ans, qui habite Toulouse et qui voulait s'exprimer sur la déclaration de Madame Monconduit, maire de Poitiers. C'est pas une petite ville, hein, Poitiers. Hein. Et les maires écolos, c'est des grandes villes aujourd'hui. C'est Lyon, c'est Strasbourg, c'est Bordeaux. Alors Poitiers, c'est un peu plus petit que Bordeaux, Lyon et Strasbourg, mais c'est une grande agglomération, Poitiers.
Bonjour
Elias.
À tout le monde. Et écoutez, pour répondre à cette décision, c'est intéressant de voir le décalage total de dimension qui existe entre ces personnalités-là et le reste des Français. Je vais donner un exemple. Madame, que je ne connais pas du tout, hein, pour vous dire, ne se soucie pas de Nicolas Hulot qui, selon des révélations, traînait avec 6 bagnoles alors qu'il était représentant des écolos, mais se soucie des aéroclubs et des rêves des enfants. Donc ça montre déjà un peu l'atmosphère dans laquelle on est. un truc de, enfin comment vous expliquer, du grand n'importe quoi, et on est là à se dire ah ok, peut-être que non, mais ces gens-là sont complètement déconnectés, moi je pense. Et le monsieur qui a parlé avant moi avait vraiment raison de dire que ils sont dans un dogme, mais moi je dirais encore plus. Ils ne sont même pas au courant des sujets qu'ils traitent par rapport à la pollution. Parce que s'ils s'intéressaient, ne serait-ce qu'au comparatif et à l'impératif qu'il y a de combattre certains secteurs très polluants, eh ben, ils commenceraient par les immenses sociétés pétrolières, de matières premières, les cimenteries comme Lafarge et compagnie. Pourquoi on n'entend jamais ces gens-là faire des pétitions, s'allier, faire je ne sais quoi, je ne sais pas, quelque chose qui serait quand même assez impactant contre ces immenses sociétés. Et là, elle nous parle d'aéroclub et de rêves d'enfants.
Mais vous savez, Elias, vous dites que madame la maire de Poitiers est déconnectée. Je pense qu'elle représente beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est ça qui peut être effrayant, parce qu'il y a une forme de radicalité qui se met en place dans la société, et je suis persuadé que même peut-être parmi les auditeurs qui nous écoutent, certains se disent « elle a raison ». C'est-à-dire j'entends sur les avions, par exemple, je connais des jeunes gens, parce que généralement, les fractures sont générationnelles. Donc je connais des jeunes gens qui ont 22, 23, 24, 25 ans qui disent « je ne monte plus dans un avion ». C'est écoutez, une position radicale. Alors,
écoutez, moi je vous appelle en vous disant que je ne suis pas là pour défendre le secteur aérien, parce qu'il y a des pilotes, il faut le dire aussi, qui défendent le secteur aérien parce qu'ils sont ancrés dans l'aérien. Moi je ne suis pas de ce genre de personne, je fais l'aviation par passion.
Non mais je vous répondais simplement sur le thème,
bien sûr,
elle
bien
n'est
sûr.
Pas toute
j'y
seule.
J'y arrive. Elle n'est pas toute seule, elle a probablement des milliers, peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes derrière elle, là n'est pas le problème. Moi ce qui me dérange, c'est les priorités. On nous parle d'aéroclub, qui sont avec des coucous ripiki par rapport à des industries qui polluent à un point inimaginable chaque minute qui passe. Et madame nous parle des rêves d'enfants à contrôler pour essayer de dissuader les gens de prendre l'aérien. Moi, je pense que ça montre bien le fait qu'on est carrément déconnecté. On a des représentants et même des élus qui sont carrément déconnectés.
Et vous avez dit le mot, ils ont été élus. Et madame le maire ou la maire de Poitiers, elle a été élue. On va marquer une pause et puis après, on vous fera une petite surprise. Nous avons la playlist que nous avons inventée pour madame la maire de Poitiers. La playlist rien que pour elle. Donc ça fera peut-être sourire encore notre amie Cini. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Restez avec nous parce qu'on va écouter la playlist de la maire de Poitiers. Mais avant cela, Alexandre de Saint-Aignan le rappelle des titres.
2 millions de Français ont reçu une dose de vaccin la semaine dernière en France, affirme Olivier Véran, invité du 13h de TF1. Parmi eux, 500 000 ont été vaccinés avec AstraZeneca, un vaccin très efficace. Les autorités scientifiques nous disent qu'il est sûr, notamment chez les personnes âgées, promet le ministre de la Santé, qui rappelle que la situation est tendue avec en moyenne 40 000 Français chaque jour qui sont testés positifs. Le vaccin AstraZeneca continue pourtant de susciter des inquiétudes sur les risques d'effets secondaires. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les élus et les médecins se sont retrouvés hier avec près de 1200 doses qui n'ont pas trouvé preneur. Le Portugal continue de se déconfiner. Les musées, les collèges, les terrasses de café rouvrent à partir d'aujourd'hui. L'affluence devrait de toute façon rester limitée en l'absence de touristes étrangers. Garde à vue prolongée pour les 5 femmes interpellées hier à Béziers. L'une d'entre elles, âgée de 18 ans, est soupçonnée d'avoir voulu commettre un attentat contre des églises, accusée de détention, fabrication d'explosifs. Plusieurs bouteilles avaient été retrouvées scotchées avec des billes. Un sabre a également été saisi lors de l'interpellation. La 4e édition du Loto du patrimoine, 18 sites ont été sélectionnés pour en bénéficier cette année, de la maison de la tante Léonie de Marcel Proust à un ancien pénitencier pour enfants à La Réunion. En football, nouveau forfait au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi a été testé positif à son tour, il était qu'à contact de Marco Verratti, le joueur va donc lui aussi rater le quart de finale aller de la Ligue des Champions à Munich, ce sera mercredi soir. La météo pour demain, ça va continuer à se refroidir sous un un ciel encore bien nuageux sur la moitié nord, avec de la pluie et même parfois un peu de neige, voire même de la grêle jusqu'en région parisienne. Le sud va encore profiter d'un temps agréable, même si les températures vont également baisser. Il fera seulement 5 degrés demain après-midi à Belfort, 6 à Paris, 9 à Rennes, 10 à Biarritz, 12 à Toulouse et 13 degrés à Marseille. Vous retrouvez Pascal Praud, il est 14h02 sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Merci Alexandre. On continue la discussion sur Gilles. Mais je vous avais promis une petite playlist. Une petite playlist. Je vous rappelle que Léonore Monconduit a dit assumer le fait que l'argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables. L'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. La playlist de Madame Monconduit.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole.
Ça pourrait être le numéro 5 alors. Il y en aura 5. Le numéro 4 à présent. Céline Dion. Numéro 3 peut-être ?
Avec plaisir.
Elle va être contente si elle nous écoute, Madame Monconduit. Numéro 2, pourquoi pas ?
J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête.
J'adore cette chanson. Joël était d'une beauté exceptionnelle. Elle est morte très jeune. Je sais Joël qui chante dans le groupe, il était d'une fois.
Il reste le numéro 1, on le garde pour plus tard ou vous voulez
non,
le faire tout de suite ?
Non, numéro 1 maintenant. C'est Charlie Licouture ?
Oui, absolument. Il y a des titres bonus après hein, dans la playlist.
Gérard de Palmas. Bon, c'est l'émission des auditeurs, donc on va pas passer notre temps à chanter. Gilles,
oui,
bonjour. Gilles est là.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour Gilles.
Oui.
Comment ça va ?
Eh bien, écoutez, ça va, malgré tout.
Donc, pourquoi malgré tout ?
Parce que malgré tout ce que vous-même avez dit et ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais je suis content d'avoir la parole, donc je vais pouvoir rééquilibrer la balance.
Ah bon, parce que vous êtes pour stopper l'argent public aux aéroclubs.
Absolument, absolument.
Et pourquoi ?
Je vais vous le dire. Je vais d'abord dire que je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'expression de la mère a été très mal choisie, voire même folle. Effectivement, les hommes et femmes politiques n'ont pas le pouvoir d'influencer sur les rêves des gens. Vous avez parfaitement raison. Mais néanmoins, la décision prise, elle est très très bonne. Et elle est très logique et très cohérente avec le programme des Verts pour lesquels ils ont été élus, notamment à Poitiers, et avec les idées des écologistes en général. Et troisièmement, ce que je veux encore dire, c'est que cet événement nous rappelle que les écologistes sont iconoclastes. Ils s'en prennent aux images sacrées. Et donc, il y a d'autres images sacrées qui vont encore être visées. Je pense par exemple au Grand Prix de France de Formule 1 ou aux 24 heures du Mans moto, les écologistes vont les dénoncer et vont demander qu'on arrête de les subventionner. Et c'est parfaitement logique et cohérent avec eux-mêmes, avec leurs idées, qu'on ne leur reproche pas pour une fois de faire ce qu'ils disent. Et pour finir tout à fait...
Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit subventionné, hein, les 24 heures du Mans ou le Grand Prix de France. Hein, là, vous le dites, j'en suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Est-ce qu'il y a de l'argent public dans le Grand Prix de France ou pas ? C'est possible d'ailleurs, hein, c'est possible.
En tout cas, voilà, les activités que les écologistes jugent néfastes à l'habitabilité de la planète doivent cesser d'être subventionnées avec de l'argent public. C'est logique avec leurs idées. On ne peut pas leur reprocher d'être incohérents. Et pour finir tout à fait, moi ce que je veux dire, on n'est plus dans les années 30, on a changé d'époque. Il faut savoir ce qu'on veut, si on veut changer les paradigmes, les ADN, les disques durs, les logiciels ou pas. On est dans un changement, effectivement, de vieilles images, de vieilles choses qui nous paraissaient sacrées.
Mais alors c'est quoi votre monde idéal, Gilles ? C'est un monde sans avion ?
Avec beaucoup moins d'avions, comme dans les années 50, où on prenait l'avion de façon tout à fait exceptionnelle. Moi, je ne sais pas si je suis radical, je m'interdis de prendre l'avion pour tous mes déplacements intra-européens. Et soit je prends le car, soit je prends le train, comme faisaient nos grands-parents, On n'en meurt pas du tout. Et
c'est tout non, c'est juste plus long, mais ça dépend où vous allez. Mais pourquoi pas là encore, tous les choix sont respectables.
Je vais jusqu'à Berlin. Tous les choix sont respectables.
Vous habitez où ?
À Lyon. Mais ils ne sont pas équivalents. Mmh. Ils ne sont pas équivalents en termes d'émissions et en termes de nuisances. Non, tout ne se vaut pas.
Non, mais je vous dis, j'entends ce que vous dites. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette perspective. Bon, vous pensez que c'est abîmer la planète que de prendre un avion pour Berlin ?
Mais bien sûr, ça y contribue, évidemment. C'est comme le trou de la sécu, c'est une accumulation.
Non, mais ce qui m'ennuie, moi, dans ces radicalités, c'est où ça commence, où ça finit. C'est ça qui m'ennuie toujours. Je ne sais pas si vous avez des souliers de cuir ou pas, mais je pourrais expliquer que le cuir vient sans doute d'un animal et que pour que cet animal vive, il a fallu de l'eau et beaucoup d'eau et que c'est un frein à là encore au bien-être de la planète et que si vous alliez en sandales et pieds nus, ça serait mieux pour la planète.
Bon, d'abord, moi, je ne suis pas végane, mais... Et...
Non, mais je pourrais.
Oui, oui, je comprends.
Donc, je peux... La question, c'est toujours... Je pense qu'on est tous d'accord pour que l'écologie soit, ces prochaines années, au cœur de nos sociétés. On est tous d'accord pour dire que des villes ont été ravagées ces dernières années, des villes balnéaires ou pas, d'ailleurs, ont été ravagées. Qu'on souhaite du vert, un cadre de vie plus agréable, etc. On est tous d'accord. Bon, après... Où est-ce que tu mets le curseur et face à la radicalité, voilà, c'est une bonne question que je vous soumets.
Je comprends, c'est la question de la limite. Écoutez, pour ça, il faut faire des débats, il faut effectivement essayer de trouver des consensus, mais croire qu'on va pouvoir sauver l'habitabilité de la planète sans rien changer à notre niveau de confort matériel, à nos habitudes de facilité, ça, c'est une illusion.
Bah écoutez Gilles, cette émission permet justement cet échange et c'est bien de vous entendre pour cette raison. Vous êtes psychologue Gilles ?
Oui, oui.
Bon.
Et si ça vous intéresse pour finir, moi je peux vous dire, je ne sais pas si je suis radical ou pas, mais peut-être que je vous dirais que je vis sans voiture, sans télé, sans ordinateur, sans lave-vaisselle, sans micro-ondes, sans MP3.
Ah oui, effectivement, là vous êtes bien radical, sans, oui Gilles.
Je finis sans déodorant, sans adoucissant, sans congélateur et sans... Mais, sans grille pas électrique.
Et peut-être que vous vivez seul aussi.
J'ai un enfant. Bon, il est adulte maintenant, il est adulte.
Mais oui, donc vous vivez seul.
Oui, mais même quand je vivais
pas. Mais est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet avec toutes les choses dont vous vous passez, le fait que aussi vous auriez pu ajouter sans femme ou sans homme d'ailleurs.
Vous ne connaissez pas ma vie privée.
Je vous pose une question parce que il est vrai que lorsque on arrive à des positions aussi fortes que les vôtres, bah c'est peut-être difficile de trouver un partenaire qui accepte ces modes de vie parce qu'ils ne sont pas. Si vous égrenez tout ce que vous venez de dire, en fait, je ne connais pas de gens qui vivent comme vous, si vous me permettez, Gilles, qui vivent comme vous. Je n'en connais pas.
Écoutez, on va pas parler de ma vie privée, mais
ça m'intéresse justement. Je trouve que c'est le cœur de notre émission. C'est ça qui est intéressant, c'est le témoignage.
Je sais que nos grands-parents vivaient comme je vis. Il y a encore 60 ans, c'est pas Mathusalem. Si vous allez en Afrique, vous verrez, il y a plein de gens qui vivent de façon plus austère que moi, des millions. Hein. Donc, il faut pas non plus avoir le nez rivé sur son nombril.
Mais vous avez forcément raison pour vous, Gilles. L'important, c'est que vous soyez heureux dans cette vie-là. C'est ça qui est important. Donc, vous avez forcément heureux. Et vraiment, je ne peux que vous dire, dans la mesure où vous ne voulez pas m'imposer votre mode de vie, mais moi, ça ne me dérange absolument pas.
Mais moi aussi, je suis pour la liberté individuelle. Seulement, tout simplement, elle s'arrête là où commencent les autres. On n'a pas le droit... si vous voulez, pour clarifier, pour simplifier...
On fait une pause, Gilles, parce que vous êtes passionnant. Gilles, je vais vous dire, fait une pause parce que vous êtes en fait passionnant, que vous êtes un auditeur comme il y en a peu. Hein, vous allez redire tout ce dont vous vous passez parce que c'est fascinant de vivre comme ça aujourd'hui. Et votre témoignage vraiment nous intéresse fortement. En tout cas, il m'intéresse moi. Donc j'imagine que les auditeurs aussi seront intéressés. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Gilles défend... Oui. la position de la maire de Poitiers qui a suspendu les subventions à un aéroclub. Gilles, est-ce que vous pouvez répéter ce dont vous vous passez dans votre vie de tous les jours, tellement cette liste est formidablement intéressante?
Alors, je recommence. Je vis sans voiture, sans télé, sans ordinateur, sans lave-vaisselle, sans micro-ondes, sans MP3, sans brosse à dents électrique, sans déodorant, sans adoucissant, sans congélateur et sans grille-pain électrique.
Bon, vous, par exemple, vous n'avez pas d'email?
Non.
Vous n'avez pas de téléphone portable?
Si, là, je vous appelle avec un portable.
D'accord. Donc, vous avez, c'est la seule concession que vous faites à la modernité, si j'ose dire.
C'est l'expression que vous m'avez sortie de la bouche, là, exactement.
Bah écoutez, et ça, c'est au nom d'une idéologie qui est la vôtre.
Premièrement, c'est au nom d'une idéologie, absolument. Pour moi, idéologie n'est pas un gros mot. Et deuxièmement, tout ça parce que je suis nostalgique.
C'est l'écologie nostalgique.
La nostalgie.
Moi aussi, je suis nostalgique, mais quand ça m'arrange, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien la modernité quand même.
Non, mais avoir une vie avec des appareils, plein de boutons et d'écrans, tout qui se fait tout seul, ça ne m'excite pas.
Bah en tout cas, merci Gilles, parce que c'est pas si fréquent d'avoir un auditeur comme vous. Ça, c'est un choix que vous avez fait il y a combien de temps?
Oh, il y a une bonne trentaine d'années. Ça, c'est... Moi, il y a une trentaine d'années, j'avais une voiture, et puis j'ai fini par y renoncer petit à petit. Quand j'étais enfant chez mes parents, en fait, j'avais plus de confort. On avait la voiture, on avait la télé. Et ce sont des choses auxquelles j'ai...
Est-ce que ça, vous avez le sentiment que ça vous met en dehors des autres, en dehors de la société? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes perçu comme un original et que peut-être ça ne facilite pas le rapport avec les autres?
Ça arrive, ça se produit. Mais en même temps, moi je suis beaucoup l'actualité, notamment RTL, je m'informe beaucoup, donc je ne m'isole pas. Je reste en prise avec la société, en tout cas du point de vue de l'information.
Ben merci de votre sincérité, en tout cas, et de votre franchise, Gilles, parce que c'est toujours intéressant d'écouter quelqu'un qui ne pense pas comme soi. Merci beaucoup. Serge est là, vous pouvez rester avec nous d'ailleurs, parce que peut-être que Serge voudra vous faire intervenir. Il est pilote de ligne, alors je ne dirai pas les avions sur lesquels il vole, mais il a dû écouter ce que disait Gilles, et peut-être a-t-il envie de réagir. Bonjour Serge.
Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour.
Oui, ben réagir. Écoutez, j'écoute depuis votre émission depuis un certain temps. Ce que vous dire, c'est le choix de Gilles. Mais la question, vous l'avez soulevée, c'est est-ce que c'est un modèle de vie qu'il faut imposer à notre société? Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport au sujet, c'est que ce sont des élus maintenant qui avancent dans ce domaine-là, en décidant donc de couper les subventions aux aéroclubs. Alors je dirais que la décision est plutôt symbolique, parce que l'effet, je pense, sera relativement limité. Et je souhaitais simplement rappeler pour nos auditeurs enfin quelques chiffres clés quand même, parce qu'on s'attaque souvent à l'aviation, qui est souvent le bouc émissaire de ce combat. La part carbone du transport dans le monde, c'est à peu près 29%, donc c'est significatif. En revanche, la part de l'aérien, c'est entre 1 et 3%. Voilà, donc au nom des efforts qu'il faut faire effectivement pour sauver la planète, est-ce que ça vaut le coup de supprimer totalement l'aviation? Voilà. Donc, et la deuxième point sur lequel je voudrais réagir, mais il y a eu beaucoup de réactions là-dessus, effectivement, c'est la méthode. Et effectivement, bon, la méthode, certes, je pense qu'elle est maladroite, mais aller directement toucher nos enfants et parler de changer la manière de penser, de rêver de nos enfants pour qu'ils pensent à autre chose. Alors, on va leur faire penser quoi? Quel modèle on va leur proposer pour rêver à l'avenir?
Beaucoup de gens disent oui, c'est maladroit ça. C'est surtout révélateur, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'il y a, dans le cerveau de certains, on va rééduquer les gens. On va leur apprendre à bien penser et même à bien rêver. Vous voyez, il y a une volonté d'entrer dans la vie des uns et des autres et de dire au nom du bien, parce que c'est ça la vérité, c'est au nom du bien. J'avance au nom du bien, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, et moi j'avance au nom du bien et je vous dis pas d'aérien.
Mais vous savez, monsieur Pro, on dit bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Oui, exactement, ça illustre tout à fait ça. Et moi, je me méfie, par nature, de ceux qui veulent faire le bien de la planète. Parce que depuis quelques années, même quelques siècles, je vois, quand ils sont aux commandes, ce qu'ils font. Et ça fait peur, parfois.
Surtout que le problème est autre. On peut parler de la démographie, qui est un gros problème qui contribue, on va dire, à la démographie mondiale.
Je suis d'accord.
En fait, voilà, on est de plus en plus nombreux sur la planète.
Et qui est peut-être le problème numéro un et qui est sous-évalué aujourd'hui.
Voilà.
Bah merci là encore, Serge. Vous êtes pilote en ce moment, vous êtes au sol, si j'ose dire?
Ah, bah depuis plus d'une année, notre activité est effectivement relativement limitée.
Mais c'est-à-dire que, par exemple, quand on est pilote de ligne sur une grande compagnie, on ne vole plus en ce moment? On est au chômage partiel? Comment ça se passe?
On est au chômage partiel, les jours où nous ne volons pas, voilà, donc voilà un programme, et les jours où nous ne volons pas, nous sommes au chômage partiel. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on vole à peu près à 20-30% d'une activité normale. Voilà.
Donc vous étiez moyen, long ou petit courrier, si j'ose dire?
Oui, je suis sur moyen courrier. Donc
Le dernier vol que vous avez fait, c'est quand?
Mon dernier vol datait de la semaine dernière, mais pour des raisons, on va dire, de sécurité des vols, nous effectuons quand même des vols. On se répartit, si vous voulez, les vols qui restent, de manière à avoir une activité maintenue. Sachant que le pilotage, c'est un petit peu comme la musique. Hein, vous avez besoin de pratiquer régulièrement si vous ne voulez pas. Voilà.
Et vous êtes allé où la semaine dernière?
Alors,
si tant est que vous ayez le droit de le dire, hein, je ne veux pas vous piéger, que je n'ai pas cité votre compagnie parce que vous m'avez demandé de ne pas le faire, c'est important pour vous, mais dites ce que vous pouvez dire sans vous mettre en difficulté.
Non, peu importe, disons qu'actuellement les vols sont, on va dire, il y a quelques vols, on va dire, en domestique en France pour assurer, on va dire, une continuité territoriale. Il y a bien des gens dans notre pays qui ont un besoin impératif de se déplacer. Donc nous assurons ces vols-là. Ensuite, au niveau européen, c'est plus compliqué.
Vous êtes allé où la semaine dernière?
La semaine dernière, c'était des vols essentiellement en France. Voilà.
Bon. Et l'avion était plein?
Ah non, malheureusement non.
Donc l'avion, il est à quoi? Trois quarts, moitié, un quart?
Disons que sur des avions qui ont une capacité de 130 à 160 passagers, on a entre 30 et 60 passagers à peu près.
Donc effectivement, c'est un cinquième ou un petit quart. Bon, ben merci Serge, merci beaucoup de ce témoignage. On va marquer une nouvelle pause et puis on va tranquillement glisser vers la fin de l'émission, recevoir Flavie Flamand en ce lundi de Pâques. Et puis on se dira au revoir.
Au revoir.
À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Êtes-vous choqué par ces dîners clandestins luxueux à Paris dans des lieux très sélects? Un reportage de nos confrères de M6 diffusé ce week-end ne manque pas de faire réagir.
On n'a pas de masque. Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Là, les gens se sentent à l'aise comme chez eux.
J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut.
Et là, c'est le coup de gueule d'Elisabeth.
Bon, si vraiment ça s'avère exact, j'estime que c'est une faute grave. Donc, ils sont punis et les ministres, ils démissionnent illico presto.
Monique, ne décolère pas, l'annonce n'est pas possible.
Moi, je les prendrai, tous ces gens-là. Je les mettrai en garde à vue et je te les filerai dans une cellule. Pendant trois jours, ça leur apprendrait à vivre. Et alors, en plus, je leur filerai des amendes. Hein. Ah non, attendez.
Alors, aujourd'hui, nous avons eu un festival de punchline avec Monique. Que va-t-elle faire cet après-midi?
Bonjour, Monique.
Ça va, vous allez bien?
Et vous-même, Monique?
Ben, ça va, mais il y en a un peu marre d'être enfermé. Heureusement qu'il y a RTL et France Musique.
Oui, mais en tout cas, je vous rappelle...
Surtout RTL, d'ailleurs.
Oui, surtout RTL, vous faites bien de le dire. Mais je rappelle que vous pouvez...
Non, changeons de sujet, parlons aussi de la fin de vie.
Je préfère être enterré aux Invalides qu'au Panthéon, vous le leur direz. Hein.
Ben, je n'y manquerai pas. Mais
oui. À côté du maréchal Leclerc.
Pourquoi pas non plus?
C'est bien noté. Monique, tente de se rapprocher de vous aussi, Pascal. Petite tentative de drague. Destinée.
Quand vous allez sortir, oui. Venez me chercher, on va aller faire un tour.
Bah moi j'ai un emploi du temps un peu chargé
vous, hein,
puisque je travaille.
Oh, quel petit timide ce Pascal Pro. Mais là Pascal, je sens que vous êtes en train de craquer.
On pourrait faire quelque chose, hein. Il y a quelque chose entre nous.
Quand même, calmez-vous. Mais Monique, les vœux tous. Un mot pour l'ami Cyprien Sini.
On salue l'ami Cyprien Sini parce que...
Oh, je l'adore, lui.
Ah, voilà, un beau compliment. Et Monique et Pascal, c'est peut-être aussi le nouveau spectacle qui fera fureur dans le monde d'après.
J'ai le titre de votre spectacle.
Oui. Un voyage en absurdité. Que je fais lorsque je m'ennuie. Sardou, maléfique, formidable.
Et sinon, lundi de Pâques oblige, nous avons eu en exclusivité une info pour briller au dîner.
L'info pour briller au dîner. Paraît-il que avant, après le dimanche de Pâques, jadis, jusqu'à Napoléon, les 5 jours qui suivaient étaient chômés. Pourquoi ? Parce que on devait faire un pèlerinage. Et Napoléon a mis fin à tout cela avec le Concordat. Et en revanche, peut-être parce qu'il a négocié, il a gardé une journée chômée derrière le dimanche de la résurrection et évidemment c'était le lundi.
Magnifique info pour briller, Cyprien Sini valide, et c'est la phrase qui a fait réagir tout le week-end, celle de la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers, Léonore Monconduit.
Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui.
Alors tiens, une idée nous vient dans l'émission.
La playlist de Madame Monconduit.
Allez au hasard, Michel Sardou.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Un dernier mot, Cyprien Sini.
Bravo.
Merci Cyprien. On se quitte avec une dernière chanson de la playlist de la maire de Poitiers.
Cyprien, il était dans sa voiture tout à l'heure, il est venu jusqu'au studio. Il maintenant, il est là, le lundi oui. De
Pâques. Ah, écoutez, je suis monté dans la voiture à 12h40. Je suis arrivé à 14h27. J'ai écouté tout le long le journal de Christelle Revière. Vous attendez. C'était formidable. Bah, écoutez, j'ai passé 2 heures extraordinaires.
Bah, écoutez, je suis content. Ça me fait plaisir.
Et du coup, j'ai pas travaillé.
Bah, écoutez,
normalement, j'ai passé dans une autre radio pour l'info. C'était formidable.
Une dernière pause. Que dites-vous, Grégory ?
Que c'est l'heure de faire une dernière pause.
Une dernière
pause. S'il vous plaît.
Je vous en prie, et Flavie Flamand.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.